Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, on lit le verset 32. Et que dirais-je davantage, car le temps me manquera si je discours de Gédéon, de Barak, et de Samson, et de Jephthé, de David, et de Samuel, et des prophètes, qui par la foi subjuguèrent des royaumes, accomplirent la justice, obtinrent les choses promises, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, de faibles qu'ils étaient, furent rendus vigoureux, devint forts dans la bataille, firent foyer des armées des étrangers. Les femmes reçurent leur mort par la résurrection, et d'autres furent torturées, n'acceptant pas la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres furent éprouvées par des moqueries et par des coups, et encore par des liens et par la prison. Ils furent lapidés, sciés, tentés, ils moururent, égorgés par l'épée, ils errèrent, ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chair, dans le besoin, affligés, maltraités, de quel le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes et les cavernes et les trous de la terre. Et tous ceux-ci, ayant reçu témoignage par la foi, n'ont pas reçu ce qui avait été promis. Dieu ayant eu en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas à la perfection sans nous. Chapitre 12. C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entoure, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix et en méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas là, étant découragés dans vos âmes. Jusqu'ici la lecture. Cette épître merveilleuse nous présente le Seigneur Jésus. 9 fois son nom est répété, Jésus. Et on a vu dans cette épître d'abord une présentation de sa personne, ensuite de son œuvre. Et ensuite nous avons l'application. Depuis le chapitre 10, verset 19, on a l'application de tout ce qu'il a fait, ce que ça veut dire pour nous, les croyants. Et là, on a vu, le Seigneur Jésus est maintenant notre grand chef, notre grand conducteur pour nous introduire dans la présence de Dieu, dans la présence immédiate de Dieu. Pour cela, nous avons besoin de la foi. Ensuite, nous avons vu dans chapitre 10, verset 32, que les croyants avaient enduré un grand combat de souffrance. Chapitre 10, verset 36, « Car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. » Ils avaient besoin d'endurer, et pour cela, ils avaient aussi besoin de la foi. Et pour nous, c'est la même chose. Nous avons maintenant le Seigneur Jésus comme ce grand conducteur qui nous conduit à travers le désert. Comme Moïse, autrefois, a conduit le peuple terrestre à travers le désert, ainsi le Seigneur Jésus conduit un peuple céleste. Nous sommes un peuple céleste qui nous conduit à travers le désert de ce monde. Il est notre grand conducteur. Et nous avons besoin de la foi pour le suivre. Et ainsi, nous avons vu, donc, qu'on a besoin de la liberté pour entrer dans les lieux célestes, dans la présence de Dieu. Pour cela, on a besoin de la foi. Et ensuite, nous avons aussi besoin de cette liberté de la foi pour suivre la conduite du Seigneur Jésus. Et ainsi, nous avons donc dans chapitre 10, à la fin du chapitre 10, nous avons vu ce principe que le juste vivra de foi, verset 38. Et ce principe est ensuite développé dans chapitre 11, où nous avons vu d'abord les quatre principes de base de la foi. Ensuite, nous avons vu par rapport à Abraham et les patriarches, cette foi par la foi. Là, on a vu que la foi est comme télescope qui voit loin, mais qui réalise les choses comme si elles sont tout prêtes. Ensuite, par rapport à Moïse et jusqu'à Rahab, on a vu cette foi encore par la foi, et c'était comme rayon X qui voit ce qui est invisible. C'est pour ça que nous avons vu avec Moïse, voyant celui qui est invisible, verset 27. Dans ce chapitre, nous voyons que la foi croit ce qui est incroyable, la foi voit ce qui est invisible, et la foi fait ce qui est impossible. Ce sont, il semble, des contradictions, mais par la foi, ces choses se réalisent. Et on a vu que la foi nous lie à un autre monde, le monde où Christ est maintenant, ressuscité et glorifié, exalté. Nous voyons Jésus, chapitre 2, verset 9. Il est maintenant dans la gloire. Et ainsi, la foi est maintenant liée à un autre ordre de choses. Et c'est le mot meilleur qui revient bien souvent dans cette étude. Notre foi nous met en contact avec un nouveau monde où Christ est, et il représente un meilleur ordre de choses. Donc on est venu maintenant au chapitre 11, verset 32. Et j'aimerais encore faire le lien avec le verset 31. Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui n'ont pas cru, ayant reçu les espions en paix. Là, on voit donc que Rahab a cru par la foi, elle a agi, et le résultat était qu'elle n'est pas périe avec ceux qui n'avaient pas de foi. Pas de foi. Ici, dans le contexte, dans le temps de Rahab, c'était les gens de Jéricho qui n'ont pas cru. Mais on a vu que l'Épître aux Hébreux applique ces choses aux croyants dans ce temps-là, les chrétiens hébreux. Ils étaient entourés par des gens qui n'avaient pas cru le Messie. Le Messie était venu, ils ont rejeté leur propre Messie, ils l'ont crucifié, mais pas les Romains. Ils l'avaient rejeté, ils n'avaient pas cru. Tandis que les croyants parmi les Juifs qui avaient cru vraiment, ils étaient comme Rahab. Ils ont mis donc leur confiance dans le Seigneur Jésus, le Messie rejeté, et ainsi ils ne sont pas péris. Parce que le jugement était pour venir dans l'année 70, Jérusalem était détruite avec le temple, et ainsi les croyants parmi les Juifs n'ont pas péri avec ceux qui n'ont pas cru. Et c'est encore un principe qui s'applique aujourd'hui. On lit dans Jean 3, verset 36, un verset que j'aimerais vraiment souligner, qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il y avait seulement deux possibilités. Et ainsi, Rahab, elle a cru, et ainsi elle n'a pas péri avec ceux qui périssaient dans la destruction de Jéricho. Maintenant, pour les croyants parmi les Juifs, dans ce temps-là, ils ont cru, tandis que les autres Juifs, ils n'ont pas cru, ils étaient marqués par la désobéissance, et ils ont péri dans la destruction de Jérusalem. Pour l'appliquer à nous aujourd'hui, ceux qui croient aujourd'hui, ils ne périront pas, le Seigneur l'a dit, hein, plusieurs fois dans Jean, tandis que ceux autour de nous qui ne veulent pas croire, qui désobéissent, ils vont périr. C'est donc très solennel. C'est un message qui est très actuel encore aujourd'hui. Ou bien on met sa confiance dans le Seigneur Jésus et on sera sauvé, on ne périra pas. Ou bien on désobéit, parce que ne pas croire veut dire vraiment désobéir au Fils, désobéir au Seigneur Jésus, et là on va périr. C'est terrible. Le restant du chapitre nous parle de ceux qui étaient dans le pays promis. On a vu déjà dans Hébreux 3 et 4 hein, que le fait que le peuple était dans le désert pendant 40 ans, c'était à cause de leur manque de foi, à cause de leur désobéissance. Donc dans ce contexte de la foi, dans Hébreux 11, l'auteur ne peut pas prendre des exemples du voyage à travers le désert, parce que là, il y avait un manque de foi. Là, il y avait aussi la désobéissance et toute cette génération a péri dans le désert. Tandis que ceux qui avaient la foi, Caleb et Josué, avec la nouvelle génération, eux sont entrés dans le pays promis et les gens qu'on voit maintenant depuis le verset 32 sont des gens qui étaient dans le pays promis. Mais même là, ils avaient encore besoin de la foi. Pour l'appliquer à nous, pour nous occuper des choses du pays céleste où le Seigneur Jésus se trouve, le pays promis pour nous, on a besoin de la foi. Et c'est ça qu'on voit dans ces vainqueurs. Il y a 25 cas différents mentionnés dans cette liste où on voit des vainqueurs. Mais d'abord, il y a 7 personnes qui sont mentionnées au verset 32. D'abord, 4 juges, Gédéon, Barak, Samson et Jephté. On pourrait étudier le livre des juges et on voit là comment Dieu s'est servi de ceux qui étaient faibles mais qui avaient la foi et ils étaient des vainqueurs. Ensuite, on voit le roi selon le cœur de Dieu, David. Ensuite, on voit Samuel, le premier des prophètes et des prophètes. Donc, 7 groupes sont mentionnés ici par rapport au pays promis. Ils étaient dans le pays promis et ils sont mentionnés ici brièvement, mais l'auteur dit « Le temps me manquera si je discours de Gédéon, etc. » Je ne peux pas entrer dans les détails maintenant. Donc ça suffit pour nous de voir qu'ils étaient dans le pays promis et là, ils avaient aussi besoin de la foi. On a toujours besoin de la foi. Pour être des vainqueurs, il est dit au verset 33 qu'ils parlent la foi. Ici, c'est la foi comme instrument. Ici, nous voyons l'énergie de la foi. Et par cette foi, ils subjuguèrent des royaumes. Je trouve ça un mot très important, très intéressant aussi, parce que dans l'original, ça implique la pensée qu'on va trouver dans chapitre 12, verset 1, la course. On va parler de la course que nous devons courir. Et dans l'original, subjuguer, c'est un mot composé où il y a cet élément de la course et le résultat de ce combat, parce que c'est un combat. Et par ce combat de la foi, ils ont subjugué des royaumes. Ils ont accompli la justice. Là, on voit donc la foi qui opère. C'est une foi active et qui va avoir des résultats. Ils obtinrent les choses promises, mais c'était seulement en partie, parce que nous avons vu au verset 39, ils n'ont pas reçu ce qui avait été promis. Donc ce qu'on a ici au verset 33, c'est partiel, c'était pas encore le plein accomplissement de la promesse de Dieu. Ça va attendre jusqu'au millénium pour que toutes ces promesses se réalisent. Mais par la foi, ils ont quand même accompli quelque chose, la justice et aussi les choses promises. Par exemple, Dieu a dit « Faites ceci » et puis dans les juges, on voit qu'il y a eu des victoires et ainsi ils ont obtenu les choses promises. Ils fermèrent la gueule des lions, on peut penser à David, on peut penser à Daniel dans la fosse aux lions, on peut penser au serviteur de David, Benaïa, et d'autres, sans doute. Et ainsi, toute cette liste, il y a 10 points qui nous sont, qui sont donnés ici pour souligner cette foi active qui obtient quelque chose. Par exemple, éteignirent la force du feu, ils échappèrent au tranchant de l'épée. C'est obtenir quelque chose par la foi. C'est un résultat, c'est une victoire. Puis il y a beaucoup de cas dans l'Ancien Testament qui sont mentionnés dans cette liste, dans ce résumé. De faibles qu'ils étaient, furent rendus vigoureux. Surtout dans les juges, on voit cela. Et c'est encore, toutes ces leçons sont là pour nous aussi. Paul dit, lorsque je suis faible, je suis fort. Donc nous devons faire la même expérience. Ces croyants de l'Ancien Testament ont passé à travers certaines expériences, ils ont appris certaines choses, et ainsi, ces leçons sont pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que ces croyants-là sont cette grande nuée, chapitre 12, verset 1, qui nous entoure. Ils nous donnent des illustrations, ils nous donnent des encouragements. Ils devinrent forts dans la bataille. Ils firent ployer les armées des étrangers et les femmes reçurent leur mort par la résurrection. Il y a 10 points dans cette liste où on voit qu'ils ont obtenu quelque chose. Ensuite, il y a 15 points où on voit apparemment une défaite, mais ce n'était pas une défaite. Par exemple, d'autres furent torturés. Humainement parlant, ça semble être une défaite. Ça semble une perte de cause, de la cause, non? À travers cela, ils ont été fidèles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants qui souffrent, qui sont persécutés. Peut-être que vous souffrez à cause de la famille, ou des parents, ou quoi que ce soit, qui ne comprennent pas la foi. Il y a beaucoup de croyants qui souffrent à cause de leur foi. Et ce qu'on voit ici, au milieu du verset 35, d'autres furent torturés n'acceptant pas la délivrance. Le monde, on voit cela aussi dans le temps des Maccabéens, le monde leur a offert une délivrance, mais la foi a refusé cette délivrance. On pense aux premiers chrétiens qui étaient placés devant les lions. Ils avaient le choix de renier la foi ou être jetés devant les lions. Ils n'ont pas eu la délivrance. Quand même, ils ont vaincu par la foi. Même là, dans les souffrances, ils étaient des vainqueurs. Et la parole dit ici, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Vous voyez le mot meilleur? Par la foi, il attendait la résurrection à venir. Donc ça veut dire que cette résurrection qu'il attendait est meilleure que la résurrection qu'on voit avec les femmes qui ont reçu leur mort par la résurrection, verset 35 au début. Dans l'Ancien Testament, trois cas, dans le Nouveau Testament, trois cas, ils ont été ressuscités, mais pour mourir plus tard encore. Tandis que la meilleure résurrection, c'est par rapport au Seigneur Jésus lorsqu'il va revenir pour accomplir ce qui est dit au verset 40 pour la perfection. Donc cette meilleure résurrection est encore future. D'autres, verset 36, furent éprouvés par des moqueries, on pense à Jérémie, et d'autres par des coups, encore par des liens. On peut penser à Joseph en prison, par la prison aussi, Jérémie. Ils furent lapidés, un prophète, Zacharie, et probablement Jérémie aussi. Sciés, semble que Ésaïe était tué par cette façon-là. C'est terrible, hein, dans le temps de Manassé. Tentés, ils moururent, égorgés par l'épée, un prophète dans le temps de Jérémie. Ils errèrent ça et là, quand même, ils étaient des vainqueurs. Et là, on voit la persévérance de la foi. On a donc l'énergie de la foi qui a subjugué des royaumes, etc. On voit ici la persévérance de la foi. Et c'est vraiment ce qu'on a vu au début du chapitre, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Là, on voit l'énergie de la foi, elle voit les choses qu'on ne voit pas, et on voit aussi la persévérance, parce que la foi voit en avant, il réalise les choses qui sont encore futures comme étant présentes. Donc, soit l'énergie de la foi, soit la persévérance de la foi, nous avons besoin des deux pour être des vainqueurs. Et ainsi, cette liste continue. Comme j'ai dit, il y a 15 points. Et au verset 38, il est dit « desquels le monde n'était pas digne. » Parce qu'ils appartenaient à un autre monde. Et dans le temps du Nouveau Testament, on peut lire des remarques de l'apôtre Paul, plusieurs places, mais je vais juste donner un exemple où Paul parle de cela dans 1 Corinthiens 4, verset 13. Calomniés, nous supplions, nous sommes devenus comme les balayures du monde. 1 Corinthiens 4, verset 13. Nous sommes devenus comme les balayures du monde et le rebut de tous jusqu'à maintenant. Dans 2 Corinthiens 12, verset 11, il dit « Quoique je ne sois rien. » Vous voyez la place qu'il a pris, mais il appartenait à un autre monde. Et il n'était pas digne de ce monde, mais un autre monde. Donc il a subi le mépris, comme le Seigneur Jésus a été méprisé. Au verset 38, errant dans les déserts et les montagnes et les cavernes et les trous de la terre. Ça c'est le 15e point. On voit ici donc comment la foi était mise à l'épreuve. Et malgré ces cas où on voit que apparemment c'était une défaite, il était des vainqueurs. Le Seigneur veut aussi que nous soyons des vainqueurs là où nous sommes placés. Au verset 39 et 40, nous avons la conclusion de tout cela, et c'est aussi une partie d'un prochain paragraphe qu'on peut appeler la course de la foi, jusqu'au verset 3 du chapitre 12. Et plus tard, on verra que la foi est encore éprouvée. On voit des épreuves de la foi et de la discipline. Donc il y a beaucoup de sujets par rapport à la foi. Et je mentionne encore que la foi nous donne la puissance pour persévérer. La foi est comme une source. La foi est comme un standard aussi. On a vu cela dans le chapitre 11, verset 13. Tous ceux-ci sont morts dans la foi, mais littéralement, il est dit, selon la foi. Leur standard était la foi. Et ils sont morts, n'ayant pas reçu les choses promises, mais ils ont suivi ce standard de la foi. Ainsi, nous avons maintenant au verset 39, tous ceux-ci ayant reçu témoignage. Il faut voir au verset 2, car c'est par elle, c'est par la foi, que les anciens ont reçu témoignage. Donc, témoignage leur a été donné. Et juste quelques exemples ici qui sont mentionnés. Verset 4. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste. Une autre personne, Enoch, verset 5. Il a été enlevé, il n'a pas été tué comme Abel, mais il a été enlevé. Et qu'est-ce qu'on lit à la fin du verset 5? Avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Il marchait avec Dieu. Donc ainsi, la conclusion est au verset 39, tous ceux-ci ayant reçu témoignage par la foi. La foi était l'instrument par lequel ils ont agi. Par la foi, on a vu verset 33, toute cette liste-là, du verset 33 jusqu'au verset 38, par la foi, ils ont agi. C'était par l'instrument de la foi. Mais ils n'ont pas reçu ce qui avait été promis. Ça veut dire la pleine, le plein accomplissement de ces choses est encore futur. Et la raison est donnée maintenant au verset 40. Dieu ayant eu en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin que il, donc ces héros de la foi, de l'Ancien Testament, il ne parvince pas à la perfection sans nous. Donc, la raison pour laquelle ils n'ont pas encore eu l'accomplissement de la promesse, des promesses, c'est parce que Dieu voulait qu'ils attendent jusqu'à ce que nous parvincions à la perfection. C'est ça le point. Et Dieu avait quelque chose de meilleur pour nous. C'est donc les croyants de cette dispensation, les croyants depuis acte 2 jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ces croyants-là ont quelque chose en commun avec ces croyants de l'Ancien Testament. Et quand même, en même temps, il y a une différence. Vous pouvez réfléchir là-dessus, mais je donne un exemple. Dans Apocalypse, on trouve les 24 anciens dans le ciel, autour du trône. 24 anciens qui représentent les croyants de l'Ancien Testament et les croyants du Nouveau Testament, nous. Lorsqu'on sera enlevé, on sera introduit dans la perfection, et là, eux, les croyants de l'Ancien Testament, seront aussi enlevés de la terre. Vous pouvez lire dans 1 Thessaloniciens 4 pour avoir les détails, comment ça se réalisera, et aussi dans 1 Corinthiens 15, comment tout cela va se réaliser selon le plan de Dieu, et ainsi tous les croyants de l'Ancien Testament, Adam et Ève, jusqu'à l'enlèvement, seront dans le ciel. Et Dieu va continuer un autre travail sur la terre pour avoir encore un autre peuple sur la terre. Mais il y a donc quelque chose que nous avons en commun avec ces héros de la foi. Il y a aussi une différence. Et cela, on voit dans Apocalypse 19. Dans Apocalypse 19, on voit encore les 24 anciens mentionnés pour la dernière fois. Ensuite, on voit la noce, les noces de l'agneau. Et là, on voit un groupe qui est invité. On voit l'épouse, les croyants de cette dispensation, et on voit ceux qui sont invités pour la noce. Ça, c'est les croyants de l'Ancien Testament. Donc, ils vont aussi être là. Mais il faut... ils ne peuvent pas parvenir à la perfection sans nous. Lorsque nous serons introduits dans cette perfection, eux seront avec nous. L'enlèvement, les 24 anciens, ils seront témoins de... ils seront invités pour cette noce de l'agneau. Quelle chose merveilleuse. Et là, on voit donc une différence, on voit en même temps aussi que nous avons beaucoup en commun. Et c'est pour cela qu'on va les retrouver dans chapitre 12, dans cette expression, une si grande nuée. Tous ces croyants de l'Ancien Testament qui sont mentionnés comme une galerie de héros sont maintenant comme cette nuée et qui sont là pour nous encourager. Ça ne veut pas dire que du paradis, ils voient ce qui se passe sur la terre, mais ce que l'auteur veut présenter devant nous, cette grande nuée de témoins, est pour nous encourager, comme des spectateurs dans les tribunes, encouragent ceux qui courent. Ainsi, ces croyants dans l'Ancien Testament, qui attendent maintenant dans la gloire, ils attendent jusqu'à ce que nous soyons là, ils sont en même temps là pour nous encourager. Donc, c'est pour ça que le chapitre 12, verset 1 dit, c'est pourquoi nous aussi. Il fait maintenant le lien entre ce qu'il a présenté de ses croyants de l'Ancien Testament et aussi du temps entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le temps de Maccabée, etc. C'est pourquoi il fait maintenant l'application pour nous. Nous aussi. Donc ça veut dire que nous devons suivre leur exemple. Et là, j'aime souligner trois participes d'abord, ayant. Nous avons une si grande nuée de témoins. C'est quelque chose que nous avons. Ensuite, rejetant. Nous devons rejeter quelque chose. Ensuite, fixant les yeux sur Jésus. Donc, ce que nous avons, ayant une si grande nuée de témoins, ce qu'on a vu donc, dans cette liste des croyants de l'Ancien Testament, ces héros qui nous encouragent pour marcher maintenant, pour courir maintenant. Ils ont souffert, mais ils étaient des vainqueurs. Ils sont là pour nous encourager. Une grande nuée qui nous entoure. C'est ça que le verset dit ici. Donc, ils sont tout près de nous. Et par la foi, c'est très réel. On peut penser à Abraham, à Moïse et tous les autres. Et c'est comme si ils sont tout près de nous. Par la foi, ils sont présents. Ils sont témoins. Le mot témoin implique la pensée de martyr. Le mot littéral peut être traduit comme martyr. On a vu comme témoins, ils ont souffert pour leur témoignage. Et maintenant, ils sont encore des témoins dans la gloire, ils sont dans le paradis évidemment, ils sont encore des témoins pour que nous puissions être encouragés. Mais je répète, ça ne veut pas dire qu'ils voient ce que nous faisons. Dieu voit ce que nous faisons. Mais la présentation de ces héros de la foi sert pour nous encourager, pour nous stimuler. Et ainsi, c'est une nuée qui nous entoure, les spectateurs, pour ainsi dire, qui nous entourent, pour nous encourager. C'est ça qu'on a, mais on doit aussi faire quelque chose, on doit rejeter. Qu'est-ce qu'on doit rejeter ? Le verbe ici est utilisé 7 fois dans les Épîtres. Et c'est toujours important pour que nous puissions vraiment suivre le Seigneur Jésus. C'est quoi pour nous ? On doit se poser cette question. Qu'est-ce que moi je dois rejeter ? Il y a 2 points principaux qui sont mentionnés. D'abord, tout fardeau. Ça représente des choses qui ne sont pas nécessairement méchantes, sont des choses qui nous gênent pour courir, sont des choses qui nous ralentissent dans notre course. Si on est placé dans une course, on ne va pas prendre un long manteau. Et ainsi, il y a des choses qui sont bonnes, comme ce manteau, peut être très bon, mais ce manteau n'est pas utile pour marcher la course. Ainsi, on peut avoir des choses qui sont bonnes en soi, mais qui nous gênent, qui nous ralentissent. Et ainsi, on doit les rejeter. Et ça, c'est différent pour chacun de nous. L'Esprit de Dieu peut vous montrer c'est quoi le fardeau, ou c'est quoi tout fardeau pour moi. Mais il y a aussi un autre point, et ça c'est le deuxième point, le péché qui nous enveloppe si aisément. Qu'est-ce que c'est ça? Dans le contexte de cette épître, le péché, l'incrédulité et aussi la volonté propre. Et ça peut nous affecter aussi. Tantôt, on a vu au verset 31, ceux qui n'ont pas cru. Donc ça, c'est les incrédules. Mais les croyants qui appartiennent à Dieu peuvent aussi manquer de foi, manquer d'obéissance. Et ça, c'est le péché qui nous enveloppe si aisément. Et je répète, là aussi, ce n'est pas nécessairement la même chose pour chacun de nous, mais l'Esprit de Dieu peut nous montrer c'est quoi, pour moi, le problème. Et là, il veut que nous rejetions ce péché. Donc dans le contexte, cet épître, c'est clairement l'incrédulité et, comme j'ai dit, la volonté propre. Et c'est quelque chose qui nous enveloppe aisément, comme le verset le dit, qui va facilement ensemble avec nous. Ces éléments se trouvent facilement. On n'a pas besoin de faire un grand effort pour être enveloppé de ce péché-là. Ça peut être une petite chose. On résiste à la volonté de Dieu, on résiste, on veut. Le Seigneur nous montre quelque chose, moi je dis non. Peut-être je ne le dis pas fortement, mais dans mon cœur je dis non. Ça c'est déjà ce péché qui nous enveloppe si aisément. Et je répète, ça peut être différent pour chacun de nous. Peut-être il y a quelqu'un qui veut être baptisé, mais dit non, je ne sais pas. Ou on peut l'appliquer à beaucoup de choses. Donc c'est pour nous montrer que ça peut être différent pour chacun de nous, mais c'est un test en même temps pour chacun de nous. Donc, ayant cette grande durée pour nous encourager, nous avons aussi à faire quelque chose. C'est à rejeter ce qui nous gêne, qui nous empêche à marcher dans cette course. Ayant fait cela, donc, le jugement de soi-même, ça implique le jugement de soi-même, ça implique une repentance, comme croyant, on doit se repentir souvent aussi, on a manqué, ça implique tout cela. Mais maintenant, on est encouragé par ce mot « courons ». C'est un appel. Là, on a de nouveau devant nous cet élément de persévérance, cet élément de continuer avec patience. Le mot « patience » veut dire « continuer sous un fardeau ». 32 fois dans le Nouveau Testament. « Endurer » ou « patienter » comme verbe, c'est 19 fois. Donc c'est quelque chose qui revient souvent. On a besoin de la patience, on a besoin de cette endurance, de cette énergie de la foi pour pouvoir continuer, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'en a pas besoin? On en a besoin. Chaque jour. Et on pense encore au Seigneur Jésus. Dans le psaume 16, on dit, il a mis sa confiance en Dieu. Ainsi, nous devons mettre notre confiance en Dieu pour pouvoir continuer, pour pouvoir persévérer la course. Courons la course. Courons. C'est touchant. On pourrait étudier chaque mot. Mais je pense au Père qui a couru lorsque le Fils prodigue est revenu. Le Père a couru pour le rencontrer. C'est le même mot. On pense à Marie de Magdala, le jour de la résurrection du Saint Jésus. Elle court vers le sépulcre. Les deux disciples, Jean et Pierre aussi, ont couru. Et ainsi, il nous convient de courir. Paul, 2 Timothée 4, il est dans cette course. Est-ce que nous prenons ça à l'aise ou est-ce qu'on veut vraiment s'engager pour courir dans cette course? Et le mot course veut vraiment dire, dans l'original, un combat. Donc, cette course n'est pas juste quelque chose qu'on fait pour notre plaisir. Ça implique un combat intense sur la vie, sur la mort. Ça implique ce dévouement. On pense au Seigneur Jésus qui était dans le jardin de Gethsémané, cette agonie. Et ainsi, nous voyons que cette course est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. C'est un combat. Et on a vu ce combat dans le chapitre 11, verset 33. Par la foi, ils subjuguèrent des royaumes. Il nous manque de temps pour parler de tous ces passages, mais c'est intéressant d'étudier, par exemple, combattre le bon combat, c'est la même pensée. C'est cette course qui est un combat, une lutte, lutter la bonne lutte, combattre le bon combat. Et ainsi, c'est une question de la foi pour pouvoir la victoire. La course est pour un but, pour un prix. Vous pouvez étudier 1 Corinthiens 9, là l'emphase est sur la discipline de soi. On pourrait étudier Philippiens 3, on voit le Seigneur Jésus dans la gloire, il est notre but. Et ainsi, dans chaque passage, il y a une emphase différente, un accent différent. Donc on voit ici l'endurance, la patience, l'énergie de la foi pour être victorieux. Et pour arriver là, qu'est-ce qu'on doit faire? Fixons les yeux sur Jésus. Donc nous avons quelque chose pour nous encourager. Ensuite, nous devons rejeter quelque chose, et c'est un exercice continuel, rejetant. Et il y a aussi quelque chose, et quelqu'un qui est passé devant nous, fixant les yeux sur Jésus. C'est continuellement. On a besoin de le faire continuellement. Et ce qu'on voit maintenant, fixant ici veut dire, on rejette d'autres choses pour fixer nos regards sur lui. Donc, la pensée est impliquée dans ce verbe, en anglais on dit « looking away », donc ça veut dire, au lieu de se concentrer sur d'autres choses, on rejette ces choses dans nos pensées et pour regarder vers le Seigneur Jésus, pour nous concentrer sur lui, fixant les yeux sur Jésus. Et c'est encore sa personne merveilleuse qui est présentée devant nous. Comme j'ai dit, sa personne, son œuvre, ici, le chef qui nous conduit. Et ainsi, nous avons ce nom 9 fois dans cette épître. Comme chef, il nous conduit. Et le mot chef, ici, est traduit 4 fois prince ou auteur. C'est vraiment le leader. Il est présenté ici encore dans sa grandeur pour nous diriger. Il nous attire à lui-même. Mais vous voyez ce qui est tellement beau. Il a été dans cette course. Il est maintenant dans la gloire. Les autres, les témoins, n'ont pas encore atteint la perfection. Mais il y a quelqu'un, il y en a un qui a atteint la perfection, c'est le Seigneur Jésus. Il est là, assis, à la droite du trône de Dieu. Il a atteint la perfection. Et ainsi, il est l'encouragement pour nous, encore plus grand que l'encouragement de cette nuée de témoins, parce que le Seigneur Jésus, il a atteint déjà la perfection. Et c'est ainsi que nous pouvons atteindre la perfection. Lorsqu'il va venir nous chercher. Et nous avons donc un privilège qui dépasse encore le privilège des héros de la foi. Parce que les héros de la foi ont couru sans avoir l'exemple du Seigneur Jésus, sans avoir cette relation avec le Seigneur Jésus. Ils avaient une relation avec Dieu, évidemment. Mais ils ne connaissaient pas encore le Seigneur Jésus dans la gloire. Nous connaissons le Seigneur Jésus dans la gloire et ainsi, nous fixons nos yeux sur lui, le chef. Et il est dit aussi le consommateur de la foi. Donc il est venu dans la course. Il a couru. Il a atteint le but. C'est ça la pensée d'un consommateur. La grande nuée n'a pas encore atteint la perfection. Mais le Seigneur Jésus, il a atteint la perfection. Il est le consommateur de la foi. Et ça, c'est une pensée qui est développée beaucoup dans l'Épître aux Hébreux. Depuis chapitre 2 jusqu'à ici, on voit comment le Seigneur Jésus est présenté comme ayant parcouru ce processus pour atteindre cette perfection. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas parfait en lui-même. Il était parfait en lui-même. Il était sans péché. Mais il fallait qu'il passe à travers des expériences de l'école de Dieu pour atteindre ce but. Comme homme. Donc ainsi, il est notre exemple, notre modèle, encore plus encourageant que cette nuée de témoins. Et qu'est-ce qu'on lit maintenant? Lequel, à cause de la joie qui était devant lui. C'est tellement beau. le Seigneur Jésus. Pourquoi il est venu dans cette course? Pourquoi il est venu pour être le chef et le consommateur de la foi? Parce qu'il voyait quelque chose devant lui. C'est comme le marchand qui voit cette perle dans Matthieu 13. Il vend tout ce qu'il avait pour avoir cette perle. Ainsi, le Seigneur Jésus a vu cette joie devant lui pour avoir l'Église, cette perle pour lui-même. Et il s'est donné lui-même pour obtenir cette perle. C'est juste un exemple. Le Seigneur Jésus, il a atteint maintenant la gloire. Donc il est là dans la joie. Et dans le ciel, il y a la joie. Il est là. Il est là aussi comme notre exemple, comme notre modèle, comme nous avons vu. Il est là aussi comme ce grand berger. Vous voyez, le berger, qu'est-ce qu'on lit dans Luc 15? Peut-être que tu peux lire ce soir Luc 15. Lorsque le berger a trouvé le brebis perdu, il a porté la brebis sur ses épaules. Et il était plein de joie, plein de joie. Ainsi, le Saint Jésus, il nous voyait. Il nous voyait dans notre misère. Mais il voyait plus que cela. Il voyait le résultat des voies de Dieu, le plan de Dieu. Pour nous avoir avec lui-même dans la gloire, il a vu cela. Et à cause de cette joie qui était devant lui, il est venu dans ce monde, il a enduré la croix. De nouveau ce mot « enduré ». Il a subi tout cela, il a persévéré par la foi, il a consommé, complété tout, il a enduré la croix. Chaque mot serait une étude en soi. Par exemple, le mot « joie », je vous encourage d'étudier ce mot « joie ». Le Seigneur dit « je vous donne ma joie ». Et ainsi, il y a beaucoup de passages qui nous parlent de la joie. Par la joie, nous sommes fortifiés. La joie est semée pour le juste, etc. Donc, chaque sujet ici est très encourageant pour nous. Le mot « croix », ce que ça veut dire, ce serait toute une étude. Là, on voit le Seigneur Jésus à la croix. La meilleure personne à la croix. C'est là la place que le monde avait décidé pour lui, pas seulement le monde. Dieu avait prévu tout cela. Donc ce serait tout un sujet à étudier. Là, on voit la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Christ crucifié. Donc, pensez-y. Ensuite, il est dit, ayant méprisé la honte. Ça ne veut pas dire que le Seigneur Jésus a méprisé la croix. C'était quelque chose d'horrible pour lui. Lorsqu'il a anticipé cela dans son âme, dans le jardin de Gethsémané, on voit comment il a prié trois fois, « Père, si c'est possible, laisse passer cette coupe de moi. » Donc, c'était quelque chose de terrible. Il n'a pas méprisé la croix, mais il a méprisé la honte de la croix. Ce que cela a représenté, humainement parlant. Donc il a subi tout cela, et là il est aussi un exemple pour nous. D'un côté, le Seigneur Jésus est absolu, unique. Nous ne pouvons pas entrer dans les souffrances du Seigneur Jésus, là à la croix, dans les trois heures sombres. Mais le Seigneur Jésus est aussi présenté ici comme quelqu'un qui a souffert pour la bonne cause. Et dans ce sens-là, nous pouvons suivre son exemple. Pas par rapport à l'œuvre expiatoire, mais comme quelqu'un qui a souffert pour la bonne cause, pour la cause de Dieu. Dans ce sens-là, il est notre modèle pour suivre. Mais ici, dans le verset 2, l'emphase est vraiment sur ce qu'il est comme notre objet, comme celui qui nous attire à lui-même. Et ayant obtenu donc tout cela, il est dit, il est assis à la droite du trône de Dieu. Là, on voit donc le plein résultat. Dieu a été satisfait. Dieu l'a exalté. Et c'est très beau de voir que le Seigneur Jésus est présenté à la droite de Dieu. 5 fois dans cet épître. Mais l'expression qui est utilisée ici est littéralement utilisée 4 fois dans cet épître. Chapitre 1, verset 3. plus excellent que les anges. Là, on voit sa grandeur d'une façon très spéciale dans cette liste de 7 points dans Hébreux 1, versets 2 et 3. Ensuite, son ministère présent dans chapitre 8, versets 1 et 2, on le voit comme ministre dans les lieux célestes. Il est le ministre du sanctuaire. Et là, on le voit aussi assis à la droite du trône de Dieu. Il est assis. À cause de son œuvre accomplie dans Hébreux 10, versets 12 et 14 à peu près, nous voyons qu'il est assis à la droite. L'œuvre a été accomplie. Il peut s'asseoir. Maintenant, la course est accomplie. Il a accompli la course et il peut s'asseoir. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Cette expression, par rapport au Seigneur Jésus, assis, est utilisée 7 fois dans le Nouveau Testament. Donc, en perfection, il est là et on peut le considérer de plusieurs façons. Il est merveilleux. C'est pour cela que il est dit au verset 3, considérez celui. Il y a un appel maintenant pour le considérer, pour analyser. De ce mot vient notre mot analogie. Ainsi, nous pouvons étudier le Seigneur Jésus dans tous ses détails, comme dans cet épître. C'est vraiment merveilleux. Celui qui a enduré. Encore une fois, enduré. Les croyants avaient besoin d'endurer, de persévérance. Et là, le modèle est présenté devant nous. Il a enduré. Donc, il est là pour nous encourager, pour nous stimuler. Et qu'est-ce qu'il a enduré? Une telle contradiction de la part des pécheurs. C'est vraiment un mot très fort. Ce mot contradiction est utilisé par rapport à l'histoire dans le désert. Lorsque les 12 espions sont revenus, il y avait 10 qui ont dit « Non, on ne va pas y aller. C'est le pays promis que Dieu a promis, mais on ne va pas y aller. » Tandis que Joseph et Caleb ont dit, on va y aller. Là, il y avait une contradiction. Et ce mot est utilisé quelques fois, mais je veux juste rappeler un verset dans Luc 2. C'est par rapport à ce que Siméon a dit lorsque le Seigneur Jésus était né et présenté là dans le temple par Marie et Joseph. Et puis, Siméon a dit dans Luc 2, lorsqu'il parlait à Marie, verset 34, et Siméon les bénit, pas l'enfant, mais Marie et Joseph, et dit à Marie, sa mère, voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l'on contredira. Vous voyez, c'est dans l'original le même, et aussi dans, en français, contradiction, contredire. Ainsi, le Seigneur Jésus était un objet pour être contredit. Il a enduré cette contradiction. Pour donner un exemple, lorsque le Seigneur Jésus avait guéri un homme qui était aveugle, qui était sourd et muet, qui était possédé d'un démon, le Seigneur l'a délivré, Matthieu 12. Les chefs du peuple ont dit qu'il a fait cela par Béelzébuth. C'est un exemple de cette contradiction de la part des pécheurs. C'est la contradiction de ceux qui n'ont pas cru, qui étaient désobéissants. Quelle contradiction! Mais le Seigneur a continué. Il a continué. Donc ainsi, nous devons continuer aussi. Nous devons voir ce que le Seigneur Jésus a fait et longue distance entre lui et nous, mais nous pouvons le suivre quand même, même s'il y a cette contradiction, afin que vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes. Vous voyez, le danger, c'est qu'on va lâcher un jour, qu'on dit, mais ça devient trop. Ce mot est utilisé pour celui qui est malade dans Jacques 5. Ce mot « las » ici implique cette pensée d'être malade, faible, Mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons faibles pour être las et pour lâcher ensuite. Il ne veut pas que nous soyons découragés. Au verset 3, ce mot découragé, n'est pas souvent utilisé dans le Nouveau Testament, mais par exemple, les multitudes qui étaient là dans le désert avec le Seigneur voulait leur donner de la nourriture afin qu'ils ne se découragent pas, afin qu'ils ne tombent pas, à cause du manque de nourriture. C'est le même mot. Étant découragé dans vos âmes. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons découragés de cette façon-là. Et dans vos âmes, quel contraste. J'ai pensé à Matthieu 11, verset 29. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. » Et dans ce contexte-là, il dit aussi, vous trouverez le repos pour vos âmes. Le Seigneur Jésus s'occupe de nos âmes. Il s'occupe de nos corps pour que nous puissions courir cette marche. Il s'occupe de nos âmes. Il s'occupe de notre esprit. On a vu dans Hébreux 4 comment la parole divise entre l'âme et l'esprit. Il s'occupe de nous. Il veut nous encourager. Donc, cette épître vraiment présente devant nous un grand encouragement pour continuer dans la foi, pour persévérer par la foi, pour atteindre le but, pour ne pas lâcher, pour ne pas être paralysé par quelle raison que ce soit. Donc c'est tout un défi qui se place devant nous. Et le Seigneur donne toutes les ressources nécessaires pour nous encourager. Il est là dans la gloire, et par la foi on le voit, et de là il nous parle. De là, il nous encourage. Il prie pour nous, il intercède pour nous, chaque croyant ici. Le Seigneur s'occupe de chacun de nous pour que nous puissions continuer dans cette course, dans ce combat aussi, pour que nous soyons fidèles jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Ce passage est très riche, mais on doit arrêter maintenant. S'il y a encore une question ou quelque chose qui doit être clarifié, s'il vous plaît, on prend quelques minutes pour ça. Juste une clarification, l'expression contradiction dans Hébreux 12, verset 3, se réfère spécialement à ce qui s'est passé dans la contradiction de Corée. Cette expression est utilisée aussi dans Jude, verset 11.
Ce qui est beau dans ce chapitre, c'est après avoir mentionné tous ces noms de tous ces héros de la foi, après ça avoir mis le chef, le Seigneur Jésus.
C'est ça.
C'est mon leader par la suite de l'héros.
Et pour le contexte direct, dans ce temps-là, pour les chrétiens hébreux, on a vu donc cette nuée de témoins, c'est pour encourager. Et ensuite, c'était eux qui étaient les coureurs, les croyants parmi les juifs à ce moment-là. Mais le plus grand encouragement venait du Seigneur, comme tu dis. Et c'est là qu'il est présenté comme objet et comme prix final pour cette course. Il a atteint la gloire, il est notre prix, une fois, il est notre objet, et ainsi nous pouvons courir aussi, comme eux ont couru à ce moment-là. Tout dépend de lui. Le Seigneur, qu'est-ce que tu disais?
Tous ces témoins sont présentés.
Oui.
Le Seigneur s'intègre aussi parmi eux de parce que dans la foi, il voit lui nous accorde parfaitement. Si lui la faiblesse parmi ces gens-là, le Seigneur l'accorde parfaitement.
Oui.
Mais c'est de voir le Seigneur s'introduire de cette
foi. C'est beau, parce que lui, il est parfait.
Ouais.
Les héros de la foi n'étaient pas parfaits. Mais quand même, ils sont un exemple pour nous, un encouragement pour nous. Tandis que le Seigneur, il était parfait. Et ce qui est beau aussi dans ce contexte-là, il ne les condamne pas. On voit le manquement dans l'Ancien Testament, mais les manquements ne sont pas mentionnés ici dans Hébreux 11. Donc, il prend les choses de la foi vraiment pour encourager. Et dans ce sens-là, le Seigneur Jésus est sélectif. Il prend les choses qui encouragent. Et aussi dans nos vies, le Seigneur ne veut pas voir les choses qui découragent, il veut voir les choses qui encouragent. Et c'est ces choses qu'il veut utiliser et nous stimuler. Ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas les manquements. Il ne dit pas ça. Mais il aimerait se concentrer sur ce qui est positif, sur ce qui est beau pour lui. Oui. C'est ça que je voulais dire tantôt. On est plus béni que les croyants qui ont fait cette course dans l'Ancien Testament. On est beaucoup plus privilégié.
Les morts, on parlait de une perfection avec
les oui. C'est pour ça que j'ai dit, il faut lire aussi 1 Thessaloniciens 4 pour voir que nous serons tous avec le Seigneur. Eux seront avec le Seigneur, nous serons avec le Seigneur. Et il faut lire Apocalypse 4 et 5, les anciens autour du trône. Là, on sera dans la gloire avec le Seigneur. Et ainsi, ils vont atteindre, ils vont parvenir à la perfection ensemble avec nous. Mais en même temps, il y aura une différence parce que nous avons un lien plus proche du Seigneur Jésus que eux. Comme j'ai mentionné avec la noce de l'agneau, nous, on sera plus proche du Seigneur parce que nous, on appartient à l'épouse. Tandis que eux, les croyants de l'Ancien Testament, ils seront les invités.
Oui.
C'est là ce qu'on a en commun.